il est Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE et attention, une nouvelle ère commence. Nous sommes au lendemain de WrestleMania, le week-end le plus fou. Vous avez déjà écouté évidemment la grosse analyse de ces deux soirées exceptionnelles que nous avons vécues toutes et tous ensemble pour m'accompagner dans ce super Catch Up où nous allons voir ensemble ce qui s'est joué, j'en perds mes mots, à Monday Night Raw et à SmackDown. J'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rapha.
Salut Yerem, puisqu'il s'agit de Yerem, toujours trop modeste ou trop prétentieux pour ne même pas se présenter. Bah oui, vous savez qui c'est notre patron, c'est notre host spécial. Il en perd ses mots, il est ému car il s'est passé beaucoup de choses cette semaine-là et on est là pour ça.
Ouais, je suis encore sur le coup de l'émotion de cette belle vidéo. Dédié à Cody Rhodes qui était projeté sur un écran 26 pouces. On a une réduction des moyens et des ressources, la WWE. Nous sommes toujours à Philadelphie. Raphaël, on n'a pas quitté la Pennsylvanie, on est resté sur place. Et c'est Triple H qui nous accueille, une fois de plus, un bon bain de foule pour faire plaisir à Papy, évidemment. Alors vas-y, que les records sont tombés, hein, voilà, on nous balance tous les records de ce week-end, tous plus fous les uns que les autres, mais surtout, une nouvelle ère commence, comme je vous l'ai dit, puisque cette nouvelle ère sera menée par notre nouveau champion Undisputed, c'est évidemment Cody Rhodes. Il arrive sous les vivas de la foule, Triple H félicite Cody, il a mis fin au règne incroyable de Roman Reigns dans le plus grand WrestleMania de l'histoire, et maintenant, on va passer une petite vidéo, les gars qui étaient, voilà, les gars de la technique, les producteurs, voilà, les cinéastes, hein, carrément les vidéastes, les monteurs, les réalisateurs de la WWE à Stamford ont voulu faire un petit plaisir, un petit cadeau à Cody, Rapha. Alors on a eu droit, voilà, une petite vidéo backstage, enfin une petite vidéo, pardon, qui a retracé l'aventure épique de Cody, hein, son voyage. Alors depuis son arrivée, hein, on a des images de lui quand il était jeune, évidemment. Bah, des images de Stardust, et on a des images de Cody, Dashing Cody, et puis après même son petit détour dans la scène indé, dans les ligues mineures du catch, et puis son grand retour en fanfare pour enfin aller jusqu'à la victoire. Au retour, Triple H a disparu, mais Cody est toujours là, il se fait un petit peu mousser avec Samantha, et puis donc il rend hommage à Roman Reigns, hein, qui est un grand champion, même s'il est bien content de l'avoir battu. Il reconnaît ce que Roman a fait, mais maintenant, on a même la foule, hein, qui chante « Merci Roman ». Alors c'est assez amusant, on l'insultait encore il y a 24 heures, mais voilà, on acknowledge, hein, le Tribal Chief, qui n'est plus champion. Cody nous explique qu'il le fait tout ça pour sa fille, on a une vidéo de sa fille, voilà, il dit « voilà, je le fais, je me bats pour sa fille », et maintenant, donc, il est tout simplement le champion incontesté. Lui qui avant était rejeté, hein, qui était le mal-aimé, qui n'était pas le bienvenu. Voilà maintenant qu'il est le champion universel incontesté de la WWE. Mais ça ne se termine pas là, Raphaël, puisque la musique du rock est lancée. Et ouais, c'est les tonnerres qui s'abattent une fois de plus sur Philadelphie. Et pendant de longues minutes, les deux hommes vont se toiser sans dire mot. La foule appelle l'Undertaker, mais l'Undertaker ne viendra pas. On a des gros mots qui sont lancés, la foule est en délire, le Rock joue bien avec, demande à la foule de se taire, et puis là, le Rock va doucement et sûrement reconnaître, hein, la victoire de Cody, qui a fini son histoire, il a battu Roman Reigns, et puis il va, voilà, son attitude va un petit peu changer et être de plus en plus menaçante, tout en étant à la fois assez concerné par ce qui se passe avec Cody Rhodes. Et on dit, bah voilà, Cody, tu as fini ton histoire, ton père pour moi est un héros. Voilà, il peut être fier pour. Ton père peut être fier de toi, et toi tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Cody a terminé ton histoire, il a une nouvelle ceinture. Le Rock aussi a une ceinture, il a une belle ceinture, la ceinture des champions du peuple, Raphaël, et il demande à Cody s'il veut bien échanger pour voir ce que ça fait. Ah, la foule dit non, je pense que toi, Raphaël, tu disais non aussi derrière ton écran. Tu dis, faut pas faire ça. Et finalement, Cody accepte. Voilà, le Rock dit, ouais, elle est belle cette ceinture quand même. Donc voilà, on imagine un petit peu déjà ce qui se passe dans sa tête. Il dit qu'il va partir, mais que quand il reviendra, ce sera pour Cody, qu'il soit champion ou non. Et il a un dernier cadeau à faire à Cody. Il lui donne son, voilà, quelque chose. On ne saura pas ce que c'est. On ne saura pas ce que c'est. Le final boss donne quelque chose dans la main de Cody et il demande à Cody de ne plus lui briser jamais le cœur. Voilà, il lui a brisé le cœur une fois. Il ne voudrait pas lui rebriser le cœur une seconde fois. Et c'est comme ça que ça se termine. J'ai résumé autant que possible parce que ça a duré genre presque une demi-heure. C'était long. Mais est-ce que c'était bon, Raphaël ?
Eh ben, moi je dirais qu'il y a deux parties clairement. La partie Triple H tout à fait oubliable. Le clip tout à fait oubliable. Hein, il nous a, enfin, on avait le soir même de la fin de WrestleMania, on avait déjà vu les clips faits par la WWE.
Totalement dispensable en effet.
Voilà, donc ce truc où il nous dit ah, il y a des mecs qui nous ont montré ça en coulisses, ils m'ont dit tu pourras lui montrer, tu pourras lui montrer à Cody. Je dis non, vous allez montrer à tout le monde. Ouais. Bon, ok.
D'accord.
Ça c'était pas ouf. Par contre. Non. The Rock, impeccable, incroyable, clôt ce chapitre, on va dire, puisqu'il parle lui-même de chapitre et d'air de façon impeccable. De toute façon, on reconnaît la victoire, on reconnaît que tout a été fait, tout a été mis comme embûche sur le chemin de Cody Rhodes et qu'il a réussi à surpasser ça. Le public a bien joué le jeu, on lui a scandé des Undertaker, voilà, il s'attendait pas, c'est sûr, The Rock à tout ce qui s'est passé à WrestleMania, non, j'ai bien aimé en plus, voilà, parce que la foule avait la même réaction que tu devais avoir comme moi sûrement, c'est-à-dire ce côté, on eut les heels, mais en même temps, enfin, voilà, thank you Roman, évidemment, pour ce règne historique, The Rock, on se fout un petit peu de lui, mais c'était quand même vachement, c'était d'une très très grande qualité, ce qui nous a servi là pendant ces dernières semaines, et puis voilà, c'était à la fois une validation de la part de Rock, une passation de pouvoir, une intrigue avec ce qu'est-ce qui lui a glissé dans la main, ce petit objet, on se demande bien ce que c'est, moi je n'ai aucune théorie là-dessus, hein. Je ne sais pas si les fans, vous savez ce qu'il a pu lui donner, est-ce que c'est une vieille dent de Dusty Rhodes qu'il avait gardée ou quelque chose, je ne sais pas, on peut tout imaginer, un vieux slip, on ne sait pas, mais ça tient dans la main, en tout cas c'est le Schmilblick tient dans la main comme on dit, mais non ouais vraiment très, bon, très bonne promo de The Rock, en plus... voilà, il nous donne un petit programme. C'est vrai qu'on était tous, on savait pas trop en fait ce qu'allait faire The Rock. Là, ok, c'est clair, il repart un peu, donc on va avancer vers une nouvelle, de nouvelles FUD. En fait, on va repartir, on va pas poursuivre toute cette histoire de Bloodline immédiatement, mais on prend pause, mais on prend acte pour l'avenir et ça continuera. Donc, je suis quasiment certain hein, que The Rock tiendra sa promesse, il reviendra et on aura des face to face. Donc, c'était une, je trouvais une bonne façon à la fois d'ouvrir le show. Et puis de clore, en fait, quelque part, WrestleMania et toute cette ère du Final Boss, là.
Ouais, il nous dit effectivement que l'histoire de Cody avec Roman Reigns est terminée, mais que leur histoire à eux ne fait que commencer. Et ça, quand il a sorti ça, c'est vrai que on avait un petit peu les petits frissons, tu l'as dit. C'était franchement bien ficelé, hein. Effectivement, l'histoire est terminée. Les méchants reconnaissent la défaite. Hein. On verra d'ailleurs que c'est né, qu'ils seront plusieurs. Hein. Voilà, ça viendra aussi de la voix de Roman Reigns, en tout cas de son porte-parole. Mais en tout cas, voilà, on reconnaît le final boss, le vrai boss, hein, parce qu'il y a un échange qui est sympa d'ailleurs entre Cody et Le Rock. Hein. Il y en a un qui lui dit « moi je suis ton patron », l'autre qui lui dit « moi je suis ton champion ». Donc c'était plutôt bien vu. Et puis effectivement, ce petit objet mystérieux qui est donné à Cody, et on a déjà presque envie d'être à WrestleMania 41, là, en fait. rien qu'avec cette séquence, qui effectivement... Ouais. Est vraiment bien ficelé et nous fait oublier le petit bain de foule de Triple H qui lui était totalement inoubliable.
Oubliable, tu veux dire?
Oubliable. Par contre, qui est inoubliable... celui qui a été oublié à WrestleMania, c'est Nakamura.
C'est vrai.
On ne l'a pas vu du week-end. Et du coup, Rafa, tu connais les fameux Raw du lendemain.
Ouais.
Et ben, c'est la formule où tout peut se passer, y compris des montées, des NXT, des petits. Alors, soit des montées, soit des piges. Alors, on ne sait pas trop ce qui va attendre les membres du roster jaune et noir qui sont venus faire un petit coucou ce soir. Ils sont plusieurs et le premier, c'est Ilya Dragunov qui est donc toujours champion NXT et qui affronte Nakamura, qui va même battre Nakamura. Voilà, dans un match. Plutôt un assez stiff entre le japonais et l'homme de l'Est. La Torpedo Moscou, la de Moscou, voilà, paf là qui atterrit sur le japonais. Et donc une belle victoire de NXT, voilà, pour faire plaisir à Shawn Michaels. Ouais, écoute, premier match de la soirée, mais on sent qu'il va se passer des choses qui n'auront pas beaucoup d'impact sur la suite, hein.
Oui, Ben Nakamura, c'est vraiment le remplisseur de programme, hein, il faut dire ce qui est. Malheureusement, on le met quand on n'a pas d'autres choses à faire, et là, il a bien joué ce rôle-là. C'est plaisant de voir Ilya Dragunov, c'est vrai que c'est quand même. Il a quand même une gimmick très marquée, hein, c'est difficile. Une gimmick très Europe de l'Est, voire russe.
Hein, ah, le tsar.
Donc voilà, est-ce que la WWE va renouer avec ses racines de la grande époque de Vince où on utilisait les conflits politiques en cours pour faire des storylines? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on apprend suite à ça, mais peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, tu allais nous en parler, c'est qu'il y a une draft qui arrive très bientôt et que NXT aussi pourra être dans le. Dans les chariots, donc peut-être que Dragunov a impressionné Adam Pearce et va monter dans quelques semaines.
Ah oui, tu fais bien en parler, effectivement, la draft qui aura lieu juste avant Backlash, qui lui aura lieu en France. Donc effectivement, il faut commencer à se faire remarquer, hein. On se souvient l'année dernière qu'il y a eu pas mal de monde de transferts d'NXT, y compris des champions et des championnes qui étaient montés. D'ailleurs, on a une championne qui est montée, c'est Roxanne Perez. Roxanne Perez qui, elle, a remporté à nouveau le titre de championne NXT. Ça se passe un petit peu plus tard dans la soirée, mais bon, je fais un petit package. Et elle a battu ce soir Indy Hartwell. Et Indy Hartwell, c'est elle qui était championne l'année dernière. Et c'est elle qui était montée d'NXT en étant tout le temps championne, mais elle avait la jambe dans le plâtre. Et du coup, voilà, sa montée n'avait pas été très remarquée. D'ailleurs, ça fait un an qu'elle ne se fait pas très remarquer, mais elle a un petit programme qui se dessine avec Candice LeRae, la méchante Candice LeRae. Qui va d'ailleurs tenter d'aider donc Indy Hartwell, mais Indy Hartwell se fait distraire et Roxanne Perez, qui est dorénavant méchante, en profite pour remporter son match. Et donc bah voilà, une autre championne qui se fait remarquer, qui va tenter de se faire remarquer par le staff de recrutement de SmackDown ou de Monday Night Raw.
C'est ça, les petites montées d'NXT, mais comme tu le dis, je pense que c'est juste des petites piges. En tout cas, avant le draft, je ne suis pas sûr qu'on les revoie à Raw ces deux-là, mais bon, c'est déjà dans 2-3 semaines.
Ouais. On construit presque plus l'inverse, c'est-à-dire que là, Roxanne, elle va croiser Natalia backstage, et les deux se donnent rendez-vous à NXT. Donc, peut-être qu'on verra aussi Shinsuke Nakamura à NXT pour occuper les deux champions en attendant la fameuse draft où tout peut arriver. Quelque chose qui est arrivé et qui était incroyable. On voit Rafa, c'est le cash-in de Damien Starr. Eh oui, enfin, ça fait presque un an, on commence à se dire, bah voilà, mais quand est-ce qu'il va se faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Eh bien, le Portoricain, il l'a fait tout simplement à WrestleMania. Notre nouveau champion du monde poids lourd s'appelle Damien Priest. Il arrive avec le Judgment Day. Rhea Ripley est toujours championne. Elle a battu Becky Lynch. Finn Balor, il n'en peut plus. Tous ses poteaux sont là. Incroyable. Ce qui s'est passé ce week-end. WrestleMania était presque parfait, mais maintenant, ils ont des petits problèmes à gérer, puisqu'ils ont quand même perdu les titres de champion par équipe, hein, au passage. Donc ça, c'est pas cool. Mais bon, Damien Priest, au passage, est devenu nouveau champion du monde poids lourd. C'est superbe, c'est magnifique. Les jumeaux terribles, hein, Damien Priest et Rhea Ripley. Et quand soudain, une petite tête apparaît pendant la pause, hein, la pause photo, c'est celle de R-Truth. Qui arrive et qui lui a les titres par équipe et qui les a ramenés donc au Judgment Day, dit-il. Donc là, il y a un gros problème, ça s'embrouille. Le Miz est là, la grosse embrouille entre le Judgment Day et donc le Miz et R-Truth qui pense toujours être dans le Judgment Day. Et ça va se transformer en match 3 contre 3. Dominic Mysterio, JD McDonagh et Finn Balor contre R-Truth, le Miz et un invité. Mystère qui n'est pas là, le partenaire mystère, un partenaire qu'on n'est pas censé voir, et qui va apparaître au dernier moment, puisque Raphaël, John Cena est toujours à Philadelphie, John Cena débarque, et la victoire, le triple AA, le triple attitude adjustment en synchronisé, 1, 2, 3, victoire de Awesome Truth et John Cena. John Cena, il n'aura pas fait le déplacement pour rien, et on l'aura vu, et R-Truth. Voilà, toujours avec le héros de son enfance, a gagné avec le héros de son enfance dans ce match en 3v3.
Ouais, et bah John Cena qui continue cette fameuse streak, hein, il a catché désormais en 2024. Donc il aura catché tous les ans depuis ses débuts. Ça fait 22 ans qu'il catche John Cena. On se souvient que C'était il y a un an ou deux où il était apparu au dernier show quasiment de fin d'année avant Noël, juste pour faire un tag team avec Kevin Owens, si je me souviens, et donc pour maintenir son record. Bon, c'était vraiment très drôle, j'ai trouvé. L'apparition de la tête d'R-Truth, comme tu dis, tout heureux derrière eux au moment de la photo des champions. Puis bon, voilà, il dit qu'il a ramené les titres au Judgment Day alors qu'il vient de les prendre. Et puis, le dialogue était très très bien vu, franchement, parce que voilà, R-Truth propose un 3 contre 3 en disant il y aura le Miz, moi, et puis celui qu'on ne peut pas voir. Alors, avec le passif d'R-Truth, évidemment, il y a tout le monde pense à ses histoires avec Little Jimmy, etc. Mais non, you can't see him, évidemment, c'était John Cena, mais personne n'y avait pensé parmi tous ces catcheurs. Donc c'est bien John Cena qui était là, et qui a fait comme il est venu à WrestleMania, hein, qui est venu se faire plaisir, chavirer le cœur de la foule et de Giscal, et puis s'amuser un petit peu avec des copains. Donc c'était vraiment très cool, très très belle, très très beau segment en intro de domination quand même de Judgment Day, hein. Elle a bien raison, Rhea Ripley, là c'est les Terror Twins avec notre ami Damien Priest qui est enfin champion du monde. Je trouve ça bien en fait qu'on nous ait à peu près scénarisé quand même de la joie chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les titres tag team, mais finalement voilà, Rhea est toujours championne, Damien Priest est toujours champion. Finn Balor pour le moment en tout cas, il a pas l'air jaloux ou en colère, il profite avec ses copains, donc c'est bien, c'est un clan vraiment où on est contents les uns pour les autres, donc ça fait plaisir.
Mais oui, dans les victoires comme dans les défaites, le Judgment Day est toujours à la cool. À la cool. Voilà. En plus, ils ont ramené une nouvelle ceinture à leur palmarès. Donc, il y a raison de plus pour rester à la cool. Mais bon, il y a quand même une petite défaite là qui fait mal. Donc, il va falloir un petit peu rediriger tout ça, repiloter, reprendre les rênes. Et pourquoi pas les récupérer ces titres de champion tag team. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sami Zayn lui aussi est champion. Il a réussi l'impossible ce week-end à WrestleMania en battant Gunther, notre ami autrichien qui s'est couché. Et ouais, on n'y croyait pas. Sami Zayn lui-même n'y croyait pas. Chad Gable lui-même n'y croyait pas. Mais à la fin, l'impossible s'est réalisé. Sami Zayn est champion. Il a battu l'histoire. 666 jours. Voilà, voilà. C'est ça, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le meilleur champion de l'histoire du titre intercontinental, il l'a battu. Il pouvait croire en lui-même, il a réussi, tout ça c'est grâce à ses potes, sa famille, et puis aussi à un type qui est Chad Gable. La musique d'Imperium qui débarque, enfin qui retentit, et c'est Imperium qui débarque, je vais y arriver, avec Vinci et Kaiser, et ouais, qu'on avait entreaperçu à peine hein, ce week-end, et qui viennent donc chercher des noises, et du coup, ils attaquent Sami Zayn, ils s'apprêtent en tout cas à attaquer Sami Zayn, et c'est bien Chad Gable qui débarque pour sauver son poteau, et les deux hommes vont battre Kaiser et Vinci dans un match très technique avec des belles German souplesse en voiture, en voilà, pour donc la victoire grâce à Gable et Sami Zayn qui promet un match à Gable la semaine prochaine. Nous serons à Montréal, et oui, devant donc son peuple, Sami Zayn va défendre son titre et donc tenir sa promesse hein, qu'il avait faite à Chad Gable. Donc, il sera le premier contender. Il lui a fait croire au début qu'il n'allait pas lui refiler cette opportunité. Chad Gable commençait un petit peu à chauffer. Et puis finalement, il dit « Ah, je te taquine. Ce sera la semaine prochaine et il n'y aura pas de cadeau. Ce sera un honneur, mais il n'y aura pas de cadeau. »
Oui, c'était assez drôle aussi. On a eu un bon énatro plutôt sur le ciné de l'humour, oui, où en gros, Sami Zayn, il lui dit « Bon, c'est bon. Je t'ai aidé. Enfin, on est quitte. » Voilà. Il dit « Mais on est quitte de rien du tout. » Oui. Alors, c'était bien. Je suis étonné qu'on aille à Montréal. Enfin, la WWE, elle bouge énormément là. Alors, on sait qu'elle bouge énormément dans ses live events. On va aller les voir à Lyon, on va aller les avoir à Glasgow, on va les avoir. Il y a encore un truc chez les talibans là, je sais pas. Enfin, voilà, on sait qu'ils vont partout. Mais même dans les weekly, enfin, ils vont à Monday Night Raw, donc ils vont là à Montréal, ils étaient à Philadelphie. Enfin, ça bouge toujours. Monday Night Raw, vous me direz, mais je trouve que ça. Il y a beaucoup de grosses villes, de grosses salles là.
Bon, on est toujours sur le record, hein, une fois de plus. Ouais. Hein, là, ils sont sur 17, 18 villes, enfin voilà, arènes remplies, sold out. Et donc, ils vont dans les grosses villes pour garder ce chiffre élevé et pour être
Montréal,
dans
le hein. Ouais. Ils y étaient il n'y a pas si longtemps, hein, de mémoire.
Ouais, hein. Bah oui, ouais. Oui. Ouais,
donc, ils aiment bien Montréal, mais c'est cool. Là encore, une fois, hein, on est vraiment sur un Raw plutôt où on va dire on encaisse le coup. Voilà, The Rock, lui, il est venu, Roman Reigns, non. Pareil pour le titre intercontinental. On a les deux sbires d'Imperium, mais Gunther, Voilà, il encaisse le coup, il s'est terré sûrement dans son château, il pense ses blessures. Et, et c'était pas plus mal, hein. Moi je sais qu'on aime bien les héros du lendemain où il y a plein de surprises et plein de gros trucs, mais ça paraît très compréhensible, je trouve, d'avoir un petit peu de mise en retrait de certains de ses catcheurs. Ouais. Sami Zayn, il a célébré, hein, il a profité aussi, comme Cody Rhodes un petit peu plus tôt. Et l'affiche avec Chad Gable, on peut pas dire que ça soit pas cohérent et logique, donc tout ça me plaît bien, moi.
Ouais, non, ça marche bien, on repose, voilà, on pense ses blessures, et puis on envoie voilà, les ads, hein, les petits lieutenants se rappeler à son bon souvenir auprès des, voilà, des nouveaux champions tout frais. On commence un petit peu à reconstruire ce programme pour les semaines ou les semaines à venir. Donc ouais, ça, il y avait un bon esprit quoi dans ces différentes séquences, que ce soit Cody, le Judgment Day ou Sami Zayn. Cody Rhodes n'avait pas trop d'humour, hein, on était plus dans le drama, mais à la sortie de ça, Judgment Day et Sami Zayn, voilà, ils sont heureux, ils sont taquins, ça, voilà, on est content, on fête, voilà, on est dans un bon état d'esprit, on a fini WrestleMania, on est sorti champion, donc il n'y a pas de raison de faire la gueule. Et en plus, comme ça, si on gagne un match derrière, c'est pas plus mal pour le Canadien. Par contre, Chelsea Green, c'est pas ouf. Elle va se faire rouler dessus par Jade Cargill, qui vient faire une petite pige à Monday Night Raw. On se souvient qu'elle a signé quand même à SmackDown. Donc, elle a toujours pas fait de match à SmackDown. Son premier match en weekly, ce sera à Raw. Donc, Nick Aldis, c'était quand même drôlement sympa. Visiblement, il se trouve des arrangements avec Adam Pearce. La draft arrive. Alors, j'imagine qu'il faut faire des preuves de bonne volonté, hein, pour faire des échanges. Hein. Ça va être le grand mercato, mine de rien. Chelsea Green, la pauvre, elle est venue se plaindre auprès du manager, évidemment, qu'elle n'avait pas eu droit à son apparition. C'est vrai, elle n'avait pas de place à WrestleMania, ce qu'on regrette, évidemment, ici, à Catch Up. Et du coup, elle s'est retrouvée dans ce match-là, elle s'est fait rouler dessus. Au passage, elle était donc accompagnée avec sa copine, donc ça, c'est plutôt cool de les revoir. Ouais, c'était là ? Oui, c'est ça ? Ou c'est peut-être à SmackDown, peut-être que je...
Non, c'était à SmackDown, ça, tu mélanges, oui.
Ouais, je mélange, je vais trop loin. Mais c'est tellement un plaisir de voir Chelsea Green chaque semaine sur notre écran, elle nous avait manqué. On a eu aussi Andrade Idolo là, qui parlait business. Là. Voilà, ça c'était pour le ticket Andrade et Idolo qui prépare aussi, j'imagine, son mercato, même s'il vient juste d'arriver. Mais bon, écoute, on verra un petit peu ce qui va en devenir pour Andrade. Quelque chose à dire pour Chelsea Green ? On est content de la revoir après ce week-end sans Chelsea Green ?
Oui, on se disait qu'elle nous manquait effectivement pour WrestleMania. Ben là, elle nous fait une grosse semaine, hein, puisque comme tu l'as teasé, on va la voir aussi à SmackDown. Pour le moment, elle a toujours ce rôle backstage où elle parle beaucoup et puis sur le ring, elle dure 30 secondes, hein, elle se fait squash. Bon, ça me dérange pas, en espérant que ça va pas durer des mois comme ça. Pour moi, Chelsea Green, elle est amenée à faire de bonnes choses sur le ring, peut-être pas à des niveaux stratosphériques, mais vraiment à se créer des personnages, pourquoi pas être un petit peu manageuse ou en tout cas sur la scène tag team et dans des interactions de groupe, elle est vraiment bien. Donc laissons-lui peut-être un petit peu de place. Après, voilà, c'est pas très grave. Hein. Ces personnages un petit peu rigolos, elle me fait beaucoup penser aux Iconics. Voilà, on les voit se prendre des baffes et des mandales et un gros finisher. Et puis 1, 2, 3, c'est fini. Ça va, mais pas tout le temps.
Pas tout le temps. Ok. Bah écoute, comme tu as dit, on la reverra à SmackDown en tout cas. On arrive tranquillement vers notre main event. Si je n'ai rien oublié, mais si j'oublie quelque chose, tu m'arrêtes. Drew McIntyre versus Jey Uso versus Ricochet versus Bronson Reed. Mais là, Raphaël, tu veux dire, mais pourquoi donc ? Mais je veux dire, il faut bien un nouveau champion prétendant pour notre nouveau champion poids lourd. Et ouais.
Déjà,
on enchaîne. Je vous l'ai dit, hein, je l'avais promis, on est parti sur autre chose. C'est une nouvelle ère qui commence. Drew McIntyre, Jey Uso, Ricochet, Bronson Reed. Ça se tient. Hein. Drew McIntyre s'est fait un petit peu flouer alors qu'il venait de remporter le titre. Jey Uso a gagné à WrestleMania. Ricochet a fait forte impression ces dernières semaines. Et Bronson Reed est tout simplement le détenteur de l'édition 2024 de la Bataille Royale en l'honneur de notre André, le géant national. Du coup, ça se tient. C'est un beau casting pour ce match. Donc, pour devenir First Contender. Et c'est donc parti entre les quatre bonshommes qui vont se mettre sur la tronche, coup sur coup. À un moment donné, Bronson Reed va se retrouver sur la table des commentateurs. Jay arrive, c'est Ricochet qui le pousse d'un énorme coup de pied, le springboard 450 sur Bronson Reed à travers la table des commentateurs qui explose. Jay et McIntyre sont là, ils se foutent sur la tronche, la Claymore kick, mais CM Punk est là, il était caché, notre ami CM Punk, lui aussi est resté à Philadelphie, il a sûrement fait colocation, il partage une chambre avec John Cena à l'hôtel, j'imagine, toi, pour réduire les frais, puis parce qu'ils s'aiment bien les deux, il faut le dire, hein. Il fait quand même des amis de longue date, et donc Drew McIntyre, voilà, qui va lui coûter une fois de plus une opportunité, Jay qui vient lui placer un énorme kick et le spear et le splash pour le compte de 3. Jay, main event, fucking Uso est donc le first contender et ira affronter notre ami Damien Priest, peut-être à Lyon, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont précisé que ce serait à Backlash ? Et donc le show se termine sur cette célébration de Jey Uso alors que CM Punk est totalement hilar et ça a dû bien te faire marrer toi, hein, Rafa.
En fait, je sais pas. Voilà. Non. C'est-à-dire que déjà, il y a deux choses. Il y a la suite de WrestleMania, les storylines qui démarrent. Et puis, ouais. Dans un coin de la tête, on peut pas faire semblant. Hein. On sera à Backlash et on aimerait bien avoir la meilleure carte possible.
Meilleure carte du monde, et oui, évidemment.
Voilà. Donc, c'est vrai que rien n'a été annoncé à ma connaissance, hein, mais Jey Uso Challenger de Damien Priest, si c'est ça, une affiche de Backlash. Bon, il y aura plein d'affiches, évidemment, mais je me suis dit, bon, j'aurais bien aimé, moi, avoir déjà Drew repartir direct contre Damien Priest. Ça aurait été un vrai gros match de bonhomme. Je dis pas que Jey Uso est pas bon, mais on va dire, dans le scénario et dans le suspense aussi, c'est pour moi, l'intensité est un petit peu moindre. Cela dit, si Drew McIntyre ne va pas direct contre Damien Priest et que CM Punk continue de lui chercher des noises, est-ce que ça serait pas parce que CM Punk commence doucement à redevenir apte à combattre, et là, si on a un Drew versus CM Punk à Backlash, alors là, évidemment, je signe et j'applaudis dès demain, moi qui n'ai jamais réussi encore à voir CM Punk en live, en vrai, en chair et en os. Donc, donc voilà, je n'étais pas tout sourire, j'étais dans un... je suis dans une expectative, voilà, je ne sais pas.
Mais je comprends.
Mais sinon, on pourrait presque se dire quand même que ça arrive vite, hein, dès l'Euro du lendemain, trouver une place à ce nouveau champion qui, en plus... Voilà, est un champion qui a caché le Money in the Bank, comme tu dis. Seth Rollins, évidemment, on se doute bien qu'il va se reposer, mais ça n'a pas été mentionné, hein, quasiment pas. Personne n'a dit, tiens, bon, Seth Rollins, il est out, donc ce Fatal 4-Way, finalement, c'est assez crédible, comme tu l'as dit. Les quatre meilleures têtes qu'on a vues ces derniers temps, mais bon, c'est vrai qu'entre Drew McIntyre, Ricochet, Bronson Reed, on a un peu des profils assez différents, quand même. Il y aurait pu avoir Ivar ou autre, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc ça voilà, c'est-à-dire que ça avait un petit peu ce côté, ça y est, c'est plus la route pour WrestleMania, quoi. Ça y est, là, on va avoir un peu plus des mid-carders, on va avoir des mecs qui vont avoir des one-shots, mais c'est plus les top niveaux, au top niveau de l'affiche. C'est un petit peu plus repartagé, mais bon, c'est cool aussi pour Ricochet qui obtient une place, qui monte un petit peu en grade. Et puis ben voilà, la feud, vraiment, c'est une vraie feud, hein, CM Punk, Drew McIntyre, c'était pas juste histoire de les occuper au micro pendant quelques semaines, donc je suis quand même curieux.
Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est tout le mal que je nous souhaite, hein, d'avoir Drew McIntyre versus CM Punk à Backlash.
Oui.
C'est un doux rêve, hein, c'est un doux rêve, je pense que là il faut du mal à y croire, mais écoute, pourquoi pas. C'est vrai que là-bas, voilà, on souffle un coup, on va voir, hein, clairement ce pay-per-view là, qui arrive à Backlash. Évidemment qu'on a envie, de façon purement égoïste, d'avoir une carte qui soit au moins aussi bonne que ce qu'on a eu ce week-end du côté de la ville de l'amour fraternel. Mais c'est vrai que voilà, hein, on va un petit peu redescendre d'un petit cran, et que ce Jey Uso versus Damien Priest a tout à fait des chances, hein, d'être une des grosses affiches de ce pay-per-view, mais écoute, tout est possible, et puis comme tu l'as dit, on continue, on reprend, ou en tout cas, on enchaîne avec des histoires qui avaient été, des graines qui avaient été semées, des graines un petit peu accidentelles, hein, qui avaient été semées sur la route de WrestleMania, qui étaient finalement pleines d'embûches, avec ce CM Punk versus Drew McIntyre, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne laisse pas tomber, et ce serait bien dommage, vu les réactions de la foule et voilà, du public, et à quel point CM Punk et Drew McIntyre ont l'air d'être chaud bouillant là, pour aller se mettre sur la tronche. Donc c'est une affaire à suivre, et c'est surtout comme ça que se termine ce show rouge, ce fameux Raw du lendemain. Alors, qu'est-ce que c'est un Raw du lendemain, finalement ? Difficile à dire, depuis quelques années, ça a un petit peu changé, et donc c'est l'heure du mot de la fin, mon Rafa, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Et effectivement, l'Euro du lendemain, c'était un très très grand rendez-vous avant. Hein. Il se passait des fois des choses énormes. On se souvient du Euro du lendemain de WrestleMania 30 qui lançait la feute du Shield contre The Evolution quand même, qui a fait les meilleures heures du catch à ce moment-là. On a eu des retours assez fracassants parfois, des Brock Lesnar, des Bobby Lashley. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Mais je pense que ça devient plus une habitude depuis qu'on a un WrestleMania en deux nuits, hein, surtout avec des équipes bien fatiguées.
Ouais.
Donc on a plutôt voilà, un show un petit peu hybride entre des longs moments quand même de célébration, que ce soit Cody Rhodes, que ce soit Sami Zayn. Du in-ring, pas, bon, voilà, on n'a pas trop vibré hein, quand même ce soir. Mais certains trucs qui se rushent un petit peu vite, je trouve, comme ce main event. Donc moi, je vais donner le top parce que je ne peux pas donner autrement à la promo de The Rock en entrée quand même. Enfin, The Rock et Cody Rhodes. Avec cet échange de ceinture qui était assez étonnant, un moment vraiment bizarre où tout le monde s'est un peu regardé. Enfin,
ouais.
Là, il y avait ce frisson quand même où on se dit « Attends, est-ce qu'il va lui casser la gueule, The Rock ? Est-ce qu'il va lui serrer la main ?» On ne savait pas du tout ce qu'il allait réagir. Et puis, bah, voilà, ce moment où The Rock prend la ceinture de champion du monde et il dit « It feels right ». En gros, ouais. ça rend bien, tu vois. On sent qu'il nous plante des graines là aussi. Donc, voilà. bravo Dwayne. On va lui donner le top, puis on ne va pas le revoir avant un moment.
Mm.
Du coup, le flop est un petit peu difficile à cerner, mais on va peut-être le mettre quand même sur cette voilà, un flop général sur l'absence de surprise.
Mm.
Même si, on ne l'a pas évoqué, mais on a eu un petit clip qui nous a annoncé un retour prochain.
Ah oui, l'Irlandais, Sheamus.
Sheamus va revenir bientôt et ça, c'est fait plaisir.
Ouais.
Mais voilà, un Raw un petit peu sage. Et donc, je mettrai une note de 3,25, qui n'est pas une si mauvaise note. Mais qui est pas au niveau des héros précédents et des shows précédents où on avait des 4 et des 4,5 sur mesure. Mais peut-être que Yerem, tu as une autre notation.
Non, écoute, c'est vrai que je regrette un peu comme toi qui est l'absence de grosses surprises, notamment des retours. Les retours, voilà, ça c'est un truc que je trouve dommage. On a annoncé retour de Sheamus, mais bon, moi je voulais le voir Sheamus, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa de le voir. Et si c'est pas Sheamus, bah pourquoi pas faire revenir un autre. Les montées d'NXT, on sait que c'est pas vraiment des montées. Et puis comme la draft arrive dans quelques semaines, finalement tout ce qui peut se passer dans ces shows-là ont presque pas beaucoup d'importance, quoi. Je pense que cette draft-là, elle est mal située. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle
ouais.
est trop... Soit il faudrait la faire dès le lendemain de WrestleMania, mais en même temps, ça fait beaucoup de choses à gérer, toi, entre célébrer ce qui s'est passé la veille et en même temps partir sur autre chose et puis gérer la draft, quand on sait que les épisodes de draft sont pas forcément super excitants. Là, à faire 3 semaines, t'as l'impression que là, on va vivre quelques semaines presque pour rien, quoi. Ou finalement, tout ce qui se passe, ça va peut-être être le temps de Backlash à peine, et puis après... parce que c'est ça, je crois que la draft, elle est effective au lendemain de Backlash, en fait. On va avoir le mercato avant Backlash, on va avoir Backlash, et puis après seulement Backlash, on aura les nouveaux rosters officiels, et donc des nouvelles histoires, puisqu'on n'est pas censé aller d'un show à l'autre. Donc...
En fait,
c'est vrai
tu vois,
que c'est ouais. un peu compliqué.
C'est toujours c'est-à-dire que la draft, elle est très souvent forcément mal placée parce qu'ils la font, voilà, à un moment, c'est le principe de la WWE, hein, tout avance toujours, il y a toujours un prochain ouais. pay-per-view, etc. Et du coup, des fois, c'est comme tu dis, c'est pas la carte du prochain Premium Live, elle est bookée, et puis entre-temps, ça draft. Donc on se dit, oui, d'accord, mais du coup, il y a des mecs de SmackDown qui affrontaient des mecs de Raw, et du coup, ça prendra. Je me demande. Alors peut-être que certains sur le Discord et sur les catch-up vont s'arracher les cheveux, mais je me demande si on pourrait pas imaginer un pay-per-view, un premium live qui serait une draft. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais un gros show, il y aurait plein de matchs et où les résultats de la draft tomberaient dans la foulée. Je ne sais pas pour vraiment faire un soir où ça se passe et arrêter ce truc qui, je l'avoue, me fatigue un peu d'avance parce que je sens que ça va être toutes les autres années où on a voilà 3 noms pour Raw, 2 noms pour SmackDown. Pendant un Raw, là où ça va être Stéphanie ou je sais pas qui va annoncer, puis on aura la même chose à SmackDown, et puis il y aura des matchs un peu lambda parce que on a arrêté le système de la grande époque où c'était les résultats des matchs qui te disaient les drafts. Moi j'aimais bien ça, c'était rigolo.
Ouais.
C'est étalé sur une semaine, donc c'est long, comme tu dis, c'est pas effectif de suite, et du coup, nous à Backlash, on va être perdus et ça va être encore nous les dindons de la farce. Donc ça...
Ouais, bah écoute, il y avait une époque où les Survivor Series avaient un rôle à jouer, il me semble, hein, dans ces transferts avec des matchs de prise de contrôle. Voilà, en tout cas, on pourrait imaginer effectivement d'avoir plus de pics si tu gagnes et tout. Mais bon, de toute façon, le concept est. Le concept est, en soi ne peut pas fonctionner dans la W2, c'est pas du tout compatible leur système. Quel est le. Est-ce qu'il y a un avantage, un inconvénient à être dans un show plutôt que dans l'autre? En soi, non, il y a des titres partout. Tu peux te faire ta cerise dans n'importe quel. Il n'y a pas de ligue majeure ou non. Ligue mineure.
Donc ou alors,
ça n'a aucun sens. Ouais.
Ou alors, et ça fera peut-être plaisir à Giscal, ben, puisqu'on est dans l'époque des live conférences et tout ça, comme ils nous ont fait avec The Rock et tout ça. Mmh. Ou alors, on fait ça. Au lieu de nous faire chier là, avec des shows où la ouais. moitié du temps du show, c'est un mec sur le podium ou une nana qui dit « Allez, et pour Raw, on a Natalia, ouais. Et pour mmh. SmackDown, on a Becky Lynch, ouais. » Et ben, qu'on nous fasse une presse-conférence. Ah, oui. Triple H et Stéphanie, ils arrivent, ils disent « Bon, bim, 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 voilà. » Et puis, il y a deux, trois gros noms qui arrivent et qui disent « Ah ouais, trop content moi, d'être à SmackDown. Ah ouais, Raw va me présenter des challenges. » Hop, emballer, c'est pesé. Et ça nous fait pas chier dans nos Raw et dans nos SmackDown.
Eh ben, c'est une super idée.
Merci.
Il m'a totalement convaincu, effectivement, un média presse conférence live from Las Vegas,
voilà.
Effectivement, avec voilà, où on ment pas sur la marchandise, on fait pas semblant de faire du catch, on est entièrement concentré sur les mercatos, on fait un bel habillage, on fait venir du beau monde, ça se chauffe sur 2-3 rivalités, voilà, ça prépare 2-3 rivalités avec des mecs qui se chauffent, et puis on a des commentateurs, on a un panel d'experts qui analysent les mouvements et on. Et comme on a eu à Las Vegas, effectivement, voilà, là, c'était effectivement le bon format. Bah écoute, vendu, c'est vendu. Allez, c'est vendu, Rafa, bravo, merci pour ton idée.
Merci.
Alors, pour revenir au mot de la fin, ce qui me concerne, bah voilà, comme tu l'as dit, c'était un Raw du lendemain un petit peu particulier, où il n'y avait pas eu de grosses surprises, mais c'était quand même plutôt bien ficelé. On a célébré ce qui s'était passé le week-end. Et donc, rien que pour ça, moi, je vais le donner, effectivement, comme toi, hein, mon top. Je vais le donner au Judgment Day qui, malgré cette petite défaite, avait l'air bien heureux et c'était une belle image. Cette faction, on était à la cool. C'était le moment des célébrations et ça c'était sympa. Quant à mon flop, pas de gros flop à vrai dire. Donc pareil que toi, l'absence de surprise, voilà, pas de montée, voilà, c'était un petit peu pas de retour. C'était un petit peu dommage. Ma note, je vais donner un 3. Un 3,5, allez, un 3,5, c'était quand même plutôt bien ficelé. Et si on allait du côté du show bleu, nous sommes le
Allons-y.
12 avril, nous sommes cette fois-ci à Détroit. Détroit, voilà. Détroit dans le Michigan, la ville des voitures, Detroit. C'est parti, le show bleu avec Corey Graves et Wade Barrett. Et c'est donc... Cody Rhodes qui ouvre le show.
Bien sûr, notre champion.
Oui, notre champion à toutes et à tous. Oui, c'est-à-dire qu'il est venu à Raw, mais c'est quand même le champion de SmackDown. Hein. Il faut le noter, c'est important. On avait un peu perdu le fil hein, avec Roman Reigns qui n'apparaissait plus beaucoup au show bleu, mais n'oubliez pas que le show bleu, c'était le show de la Bloodline, et cette fois-ci, c'est le show de Cody Rhodes. Et voilà, donc voilà, Cody Rhodes qui chauffe la foule, qui nous rappelle ce qui s'est passé avec le Rock, qui nous parle de Backlash, justement, donc qui va venir l'affronter à Backlash, et donc on va organiser tout simplement ce soir, et là du coup on sait que c'est pour Backlash, Raphaël, vous pouvez se poser la question pour l'autre titre, mais là on sait, et ce soir il y aura deux matchs de pré-qualif, avec d'un côté Escobar, Mysterio, LA Knight, et de l'autre AJ Styles, Bobby Lashley et Kevin Owens. Donc deux matchs, deux triple frites et avec donc la finale qui aura lieu possiblement la semaine prochaine.
Alors, je veux pas oui. t'embêter, mais je crois que ton c'est moi qui me suis déconcentré, j'en suis désolé, mais je suis pas sûr que tu aies eu les deux triple threats.
Non, le Chelsea gagnant dans l'ordre, là, c'était
ça,
pas bon.
Non, on va le reprendre, on le reprendra plus
tard. Je vais le reprendre parce que je vais tout simplement balancer les matchs dès maintenant, si tu veux bien.
Vas-y.
Avec LA Knight versus Bobby Lashley versus Santos Escobar. Voilà.
Exactement.
C'était ça, pour pas se tromper. Et donc, une victoire de LA Knight. Pourquoi vous allez me dire déjà parce que LA Knight, il est chaud bouillant. Il est quand même gagné face à AJ Styles pendant ce week-end. Et qu'on serait très content de le voir en France, hein, LA Knight. On fera des yeah, 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 il n'y a pas de problème. Et puis surtout, il y a eu du bordel avec Santos Escobar et Bobby Lashley, évidemment, qui étaient là. On a eu toute la clique de Santos Escobar qui sont venus aider leur patron et les Street Profits qui sont venus aussi. Et du coup, c'était la grosse bagarre entre les Street Profits et donc la Legado del Fantasma. Et donc bah, LA Knight, il en a profité et il a fait son BFT sur Santos Escobar pour remporter la mise. De l'autre côté, le deuxième match, c'était le main event. Alors, je fais l'opener et le main event. Mais bon, envoyez, c'est pesé comme ça, on va laisser peser avec Kevin Owens qui lui affrontait AJ Styles et Rey Mysterio. Et ouais, donc belle affiche, hein. Beau main event, belle triple frite. Et cette fois-ci, Rey Mysterio était chaud bouillant. Hein. Il dit qu'il en a encore, il a encore un run de champion dans la bedaine, le petit Rey. Notre ami canadien, lui aussi, il a les dents longues. Et puis AJ Styles, il va se faire un plaisir d'aller chercher LA Knight, hein, maintenant qu'il sait que l'autre s'est qualifié. Et c'est parti, les 6190 sont tentés, mais ça ne passe pas tout de suite. Le stunner sur le bord du ring, ça c'était pas mal. Un gros stunner de KO sur AJ Styles. Kevin Owens qui place sa Swanton Bomb sur AJ, mais c'est contré. AJ Styles qui monte sur le coin. Rey Mysterio qui parvient à lui placer d'ailleurs au passage son 619, mais alors Rey Mysterio, il va se faire prendre dans le Styles Clash, ou c'est qui ? Ouais, c'est ça, le Styles Clash sur Mysterio, depuis le turnbuckle, Raphaël, accroche-toi, sur Kevin Owens, qui était en contrebas, victoire de AJ Styles, et donc ça se termine. Alors, excusez-moi, je termine déjà le show bleu, mais on aura des choses à vous raconter, vous inquiétez pas, entre un face-off, entre donc LA Knight et AJ Styles. Alors LA Knight, impossible de lui parler à celui-là, il parle, AJ Styles a à peine le temps de respirer, et donc à Backlash, on verra un Cody Rhodes versus LA Knight ou AJ Styles. Est-ce que tu as déjà une petite préférence, Rafa?
Bonne question.
Je commence avec une belle question, mais un piège.
Ouais. Oui, j'ai une préférence, et c'est peut-être pas la préférence globale, mais je pense que je préfère AJ Styles.
Mais oui, mais si.
Alors,
mais
c'est voilà. Voilà, mais parce que en plus, ils sont forts. Hein. Je sais pas si c'est la WWE qui a des insiders sur les réseaux sociaux, ou si c'est juste les fans qui sont à fond, mais ça y est, là, je sais pas si t'as vu, c'est parti. On voit des images, AJ Styles, qui est quand même un vétéran, a déjà catché contre Dusty Rhodes. Il a été sur le ring, mais il n'a jamais été sur le ring avec Cody encore. Donc ça serait un first in a lifetime, peut-être pas le once in a lifetime, mais ça serait un first match. Donc moi, je suis très très chaud pour voir ça, et je pense, malheureusement, pour LA Knight, que si on veut voir du gros spectacle, de bon catch, AJ Styles, il a encore plus sous la pédale à nous donner. Je suis pas très 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 chaud de revoir une revanche du match de WrestleMania la semaine prochaine entre LA Knight et AJ Styles, parce que j'ai pas trop aimé leur match à WrestleMania. Mais ça peut être une revanche cohérente pour AJ Styles aussi. J'ai été bien pris par les deux triple threats à la WWE, c'est très bien faire. J'aime bien moi les clans latinos, tout ça, et j'ai été assez fan de toutes les interventions avec la Legado del Fantasma. J'aime bien l'idée qu'on parte très probablement vers une feud entre les Mexicanos et puis l'équipe de Bobby Lashley.
Ah ouais, c'est pas mal.
Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, je dois avouer, Kevin Owens a fait une entrée incroyable sur le ring, là, en prenant le micro depuis les vestiaires.
Oui.
Kevin Owens est incroyable, il faut le dire, le redire, le re-redire. Et voilà, ce mec-là, pour moi, c'est un peu comme le Drew McIntyre à Raw, c'est le mec qui est en train de se construire à lui tout seul et qui l'a déjà fait. Drew McIntyre a été récompensé. Il a gagné à WrestleMania, même si ça a été de courte durée. Ma toute petite déception, j'aurais quand même beaucoup aimé voir Kevin Owens versus Cody Rhodes à Backlash. Et j'espère, mais bon, là on est déjà à la fin du show, mais on n'a pas tout dévoilé. Mais on a vu Logan Paul vite fait, on peut le dire en visio, filmé depuis chez lui en selfie. J'espère au moins peut-être que Kevin Owens va être celui qui croisera Logan Paul. En tout cas, il faut un truc, quoi. Kevin Owens, là, il est trop... il perd, comme tu l'as dit. Voilà, ça peut pas être juste le perdant, l'un des cinq perdants de ce petit tournoi. Il faut qu'il sorte de là vainqueur aussi, Kevin. Donc j'attends beaucoup pour lui.
Ah ouais, il est chaud bouillant, t'as raison. Il porte là... en lui, une rage assez forte à Kevin Owens. C'est un peu un patron qui n'est pas patron. Un champion sans ceinture, hein, Kevin Owens. Malheureusement, c'est vrai. Mais comme tu l'as dit, son heure va venir. On sait que voilà, les places sont chères. Hein. Les places sont chères. Et même quand on l'a, comme Drew McIntyre, ça ne dure pas très longtemps. Donc effectivement, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Mais Kevin Owens, son heure viendra. Son poteau a eu son heure. Et lui aussi, son heure viendra. Est-ce que ce sera que Logan Paul, puisqu'on va on entre dans l'ère de Logan Paul l'évêque, nous a dit Logan Paul. On a eu aussi une petite vidéo de Grayson Waller aussi, une théorie, qui n'ont pas envie de venir. C'est les champions de SmackDown, mais ils ne viennent pas. Ils font la fête, ils font la teuf à l'aéroport. Et puis évidemment, c'est un sold out hein, ici à Détroit pour cette arène. Je devais garder, si tu veux bien, l'autre gros morceau de ce show qui avait lieu un petit peu à la fin de la première heure. Là. Donc je vais un peu le faire dans le désordre. Je vais un petit peu le faire dans le désordre, ce show.
On a déjà un peu commencé. Hein, tu peux...
si vous l'avez vu.
C'est gentil de prévenir IRM après coup.
Ok, vous n'aviez pas compris. Ouais. Ah ouais, le mec. On a eu, on parlait de petits gars de NXT qui venaient faire un coucou. Alors on a eu Bron Breakker. Bron Breakker, lui, il était dans deux mondes. Voilà, c'était le Bron Breakker de Schrödinger. Hein. Il était à la fois à NXT et à la fois à SmackDown. Et ben cette fois-ci, c'est bon, il est à SmackDown. Il est à SmackDown et il a battu Cameron Grimes. Lui, c'était aussi Grimes de Schrödinger parce qu'on savait pas trop s'il était encore salarié de Stamford, mais s'il est toujours salarié, c'est toujours un jobber. Et donc il se fait rouler dessus par Bron Breakker, l'homme au spire le plus impactant de tout le business. Et si on allait du côté de la division féminine pour voir comment ça se porte, mon bon Rafa ?
Oui, allons-y, parce qu'effectivement, sur ce match de Bron Breakker, il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement.
Je me suis dit, tu n'aurais pas forcément grand-chose à dire, par contre, il y a peut-être des choses à dire sur Bayley. Bayley, notre nouvelle championne de SmackDown, elle prend le mic, elle nous fait un petit peu, une petite auto-analyse, et elle nous remercie. Elle nous remercie, nous, le public. Elle a perdu, elle a gagné à WrestleMania, elle a tout fait. Elle s'est battue cette année contre une ancienne copine. Et en plus, elle est très ravie d'être dans ce roster, là, ce locker room qui est plein à craquer de talent, même si des fois on se demande où sont-ils, hein, ces talents. Ils sont là, effectivement, mais il faut les activer. On ne les voit pas forcément tous les soirs sur notre écran. Et puis, elle dit un truc aussi. C'est qu'elle dit, vous le public, vous avez toujours été avec moi, vous m'avez toujours supporté dans mes idées, acclamé, quoi, vous avez toujours été d'accord avec moi, et vous m'avez poussé à gagner, aujourd'hui j'ai gagné, et je suis bien content. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Et bien la musique de Tiffany Stratton qui retentit, et puis elle dit, on dit, ça ressemble à un open challenge à ton petit discours, mais j'accepte, hein, parce que c'est le Tiffy Time, alors on est tous contents de voir Tiffany Stratton arriver, évidemment, elle nous avait manqué elle aussi, hein, à WrestleMania, où étaient ces filles là ?
Mais oui.
Et puis Bayley dit je pensais plutôt à quelqu'un qui a fait son retour au Rumble là, c'est pas vraiment un open challenge, mais je pensais plutôt à ma copine. Et Naomi qui arrive évidemment, qui débarque, qui pilote Tiffy qui la chauffe, dit Tiffany, elle serait même pas capable de retrouver son titre qui clignote là dans une salle obscure là dans le noir, donc tu parles. Ça se chauffe et derrière on a un match avec Naomi qui va battre Tiffany Stratton et qui donc semble poinçonner son ticket pour aller affronter Bayley, hein, donc les deux copines qui vont s'affronter a priori pour le titre de championne de SmackDown, hein, détenu donc par Bayley depuis ce week-end, suite à cette victoire de Naomi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que... Je me gratte la tête avec ce programme de Bayley là.
Moi c'est une autre partie que je ne citerai pas, qu'on a presque envie de se gratter là, de dubitat. Voilà, on s'en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait le poète. Ça fait longtemps hein, que je dis que je suis pas un fan de Bayley et tout le monde n'est pas de mon avis sur les Discord et les réseaux sociaux.
Ouais. C'est l'homme de la vérité.
Mais
oui.
Toujours. Mais on me dit qu'elle porte la division, qu'elle porte les storylines, qu'elle porte. Ouais, dit que des conneries, ça n'a
rien du tout.
Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez toujours cru en moi et tout, mais t'étais heel jusqu'il y a deux mois. Voilà, oui. Deux ans, t'étais heel. Puis, cette façon qu'elle nous a emmené, en plus, de nous dire quelqu'un qui est revenu au Rumble, qui a été champion du monde. Alors, c'est qui ? Alors, y a qui ? Mais voilà, c'est. Alors, peut-être moi je suis pas du tout sensible au charme de Naomi, mais elle m'aurait dit allez j'ai envie de challenger Jade Cargill, tu vois, direct on aurait dit putain là ça va, mais ou Bianca Belair ou autre, mais là Naomi bon pff, ok. Et en plus j'en reviens toujours à notre fil rouge, mon bon Irem, mais ça c'est notre programme de backlash qui se dessine.
Et ça... c'est ça, c'est cette peur là, c'est plutôt ça qui nous angoisse.
Voilà, donc c'est Tiffy Time quoi. Alors peut-être que Tiffy Time, on lui fait prendre son temps, effectivement faut pas non plus lui mettre la fusée au cul trop vite, mais dans l'été elle aura sûrement sa chance. Bon, c'est sûr que c'est pas un début de règne très bien lancé. Et là, ce qui m'a quand même un petit peu étonné, c'est que on a eu des des tournois parce que Roman Reigns, bon, clairement, il est parti, parce que Seth Rollins, l'ancien champion, clairement, il est en pause. Mais là, il y a quand même tout un damage control qui pourrait arriver les dents longues. Enfin, Io Sky, à ma connaissance, elle n'est pas blessée. Asuka, elle est toujours là, tout ça. Donc, voilà, c'est bizarre que tout d'un coup, on fasse comme si le damage control, tout le monde avait disparu dans les limbes, et que, ah, ok, allez, Naomi, Tiffany Stratton, tout ça, enfin, j'espère qu'elles vont quand même un petit peu revenir et montrer les dents, même si on n'est pas fan du damage control et que tout n'a pas fonctionné loin de là, ça serait un tout petit peu logique qu'au moins, peut-être Asuka, par respect pour son talent, vienne un peu essayer de reprendre le titre, puisqu'on est beaucoup dans des histoires de ramener le titre à la maison, voilà, la Bloodline veut ramener le titre aussi, de récupérer ça dans le giron, voilà, le Judgment Day, au moins, on a récupéré des titres, voilà, voilà, qu'on en voit peut-être, si Io Sky, elle a été trop honteuse d'avoir perdu, et bah Ellie, elle peut dire, allez, vas-y, moi, j'y vais, mais voilà, Naomi, là, c'est un peu sorti du chapeau, je trouve.
Alors, plusieurs infos, en tout cas, une première info, c'est évidemment, c'est la semaine prochaine que les deux vont s'affronter, hein, Naomi versus Bayley.
Ah, ouf.
Ouais, on souffle un bon coup. D'ailleurs, il y aura un Fatal 4-Way entre les Street Profits, New Catch Republic, Legado del Fantasma et les AOP, pour avoir une chance pour le titre, voilà, du côté de la division tag team. Deuxième chose, eh ben, je suis un peu... Effectivement, là, tu parles de Damage Control. Moi, je voilà. Si je devais choisir une histoire qui me un angle, enfin, qui suivre entre Bayley et Damage Control, hein, puisque les deux sont séparés et qu'on a eu la séparation actée, on va dire à WrestleMania avec cette victoire de Bayley, quand je vois là ce qui vient de se passer avec Bayley, je me dis bah écoute, moi je vais peut-être plutôt regarder ce qui se passe du côté de Damage Control parce qu'il y aura peut-être des choses plus intéressantes libérées de Bayley qui finalement un peu à la façon de lui demander peut-être le Edge. De cette faction. Donc je suis assez curieux de ce qui va se passer avec Damage Control. Tu parlais d'Asuka, effectivement il y a quand même du talent dans cette faction, hein. Si tu prends individuellement c'est quand même pas n'importe, voilà, il y a du beau monde. Là Bayley, mais c'était honteux, hein, Bayley. Moi j'ai honte, hein. J'ai honte de Bayley, hein. J'ai honte d'avoir dit du bien, ouais, d'elle il y a quelques années, hein.
Et ben voilà les gars, assumé.
Non mais on était, alors attention, il faut aussi reconnaître qu'on pouvait être trompé sur la marchandise, hein, parce qu'on a eu quand même une période de Bayley où on pouvait, de façon très honorable, se ranger, être, voilà...
Ouais, voilà,
c'est ça, bon, c'est vrai que c'était ça. Comment... On vit sûrement dans la nostalgie de cette période-là, hein, de NXT, parce que c'est vrai que Bayley, malheureusement, on ne peut pas dire que dans le main roster... ça soit très inspiré en fait. Je m'en fous moi de son palmarès, à vrai dire. Enfin, d'ailleurs, elle a un énorme palmarès. Hein. Triple Crown et compagnie. Enfin, elle a gagné tous les titres de toute façon. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Mais alors, dès qu'il faut raconter des histoires, dès qu'il faut être un personnage, mais qu'est-ce qui se passe là, franchement, je ne comprends pas. Elle qui avait l'air tellement inspirée, voilà, par ce qui se passe backstage, qui a l'air de vouloir aider les filles et tout, toi, voilà, celle qui a fait revenir un peu Dakota Kai et qui a fait monter Io Sky, ça a l'air d'être une maman, voilà, toi, un petit peu qui tire les ficelles pour essayer de mettre en avant les petits jeunes, mais enfin, essayer de te mettre en avant toi d'abord, parce que là, franchement, ce règne de championne, ça va être dur. Moi, je sens que ça va être très, 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 très dur. Hein, parce que rien que là, quoi, elle a dit, ouais, non, mais vous m'avez encouragé depuis le début et tout. Bon, non, mais attends, effectivement, tu l'as dit. Ouais, elle nous insultait encore il n'y a même pas un mois. Quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. On peut pas dire ça.
Non, mais ouais. Je sais pas trop. C'est en plus, elle a le calibre. Quand même, comme on l'a dit, c'est une des Four Horsewomen. Elle a le calibre de quelqu'un qui peut avoir un règne assez long, mais. Je serais pas étonné à la faveur d'un Money in the Bank et d'un cash-in que ça soit finalement finalement le but. C'est un peu comme le règne de Kofi Kingston, quoi. Le but c'était l'ascension, c'était l'accession à ce règne. Maintenant qu'elle est au sommet, je suis pas sûr qu'elle arrive à nous dégager des sommets justement. Donc ça m'étonnerait pas que Bayley 3 petits mois peut-être et puis sera passé à autre chose. Ouais.
Effectivement. On reste dans la division tag team rapidement. Jade Cargill et Bianca Belair ont écrasé Chelsea Green, qui cette fois-ci était bel et bien accompagnée de Piper Niven, qui faisait également son retour. Voilà, une victoire écrasante de Cargill et Bianca Belair qui montrent leur couleur hein, et qui se positionnent d'ores et déjà pour aller chercher le titre de champion tag team qui, eux, sont toujours détenus par le Damage Control. Donc, on est censé les revoir bientôt, mon ami Rafa.
Oui, bah c'est un peu le... C'est souvent le choix de la facilité chez les filles. Beaucoup moins chez les mecs, mais très souvent chez les filles, une grosse star qui démarre. On pense à Ronda Rousey ou d'autres. La scène tag team, voilà, c'est un petit peu le truc pour commencer à se faire les dents. Pourquoi pas, même si c'est quand même deux top females là. Donc, soit il faut qu'elles laminent les deux japonaises. Et après, par contre, il faudra bien qu'elles partent en solo. Donc, il faudra trouver quelqu'un de crédible pour les battre aussi. Mais bon, là, je vais loin en besogne. C'était, comme on a dit pour Raw, Chelsea Green était très rigolote et c'était assez fun. Et. C'est vrai que j'aurais préféré l'une de ces deux-là que Naomi. Hein. Peut-être que j'aurais préféré Naomi et Jade Cargill en tag team, par exemple. Et Bianca Belair contre Bayley. Une revanche qu'on a déjà vu tout ça, mais peut-être un peu plus, je sais pas.
Il y a un petit manque de heal, hein, façon du côté du show bleu, parce qu'en dehors du damage control, il n'y a personne. Donc comme ça, il va falloir soit faire du turn. Enfin, voilà, on a aussi Chelsea Green, mais visiblement, pour l'instant, c'est pas, voilà, on n'est pas encore. Et Tiffy, qui sont plus là dans l'attente. Mais en top star, voilà, challengers crédibles pour aller chercher Bayley, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Donc la draft fera sûrement bouger tout ça, on en a parlé déjà. Mais c'est vrai que là, cette division tag team, là, elle vivote un petit peu. Il y a trop de méga stars babyface là, qui sont du côté du show bleu. Donc voilà, il faut la draft va permettre au moins de remélanger tout ça. Afin de pouvoir aller chercher justement Bayley, de proposer quelques rivalités d'envergure, si je puis dire. Et là, on va parler du gros, du costaud, parce que y a des histoires, des chapitres, des histoires qui se terminent, mais il y a des histoires et des chapitres qui commencent, et pas seulement du côté de Cody Rhodes, mais la Bloodline, et oui, la Bloodline, on en a parlé, on pensait pas. Moi, je pensais pas qu'on allait repartir directement sur autre chose à la Bloodline. Voilà, le chef tribal, est, voilà, il est sur Twitter, là, il day one, et il se relance, il admet sa défaite. Il est dans la peau du chasseur dorénavant. Il va s'entraîner pendant de longs mois avant de revenir enfin pour aller récupérer son bien. Mais pendant ce temps-là, la Bloodline existe toujours, représentée par Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Heyman, donc, qui vient porter le message officiel du chef tribal qui a perdu. Il reconnaît sa défaite. Il était champion. Voilà, il nous explique que l'année dernière, Cody avait perdu parce qu'il avait été distrait par Solo Sikoa. Cette année, c'est le chef tribal Roman Reigns qui a été distrait par Seth Rollins, hein, qui l'a vu s'offrir à lui une opportunité en or pour enfin se venger de cette trahison il y a 10 ans. L'histoire est bouclée. Roman Reigns s'est donc vengé de Seth Rollins, mais ça lui a coûté son titre. Et donc, notre nouveau champion est contesté, et c'est Paul Heyman qui le dit, et Cody Rhodes. Alors que Paul Heyman s'apprête à continuer hein, son discours, Solo l'en empêche, il arrête Paul Heyman, il prend le micro et il s'adresse à Paul Heyman et il dit voilà qu'il y a des conséquences aux défaites. On ne peut pas perdre sans qu'il y ait de conséquences. Et qui dit conséquences dit changement. Il doit y avoir du changement. La foule fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Paul Heyman est un petit peu inquiet là, c'était pas prévu. Et là Solo, il regarde Jimmy Uso et il s'approche. Jimmy fait quoi ? Moi, voilà, moi, tu regardes. Et ça commence à chauffer, là, le grand frère, le petit frère. Il dit, qu'est-ce que tu vas me faire ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Et Solo fait un gros câlin à son frère. Et il lui dit, voilà, c'est son frère, il l'aime, il faut que ça change. Et quand Solo Sikoa repart, c'est un autre qui l'attaque. Ce n'était pas un Samoan, c'est un homme des îles Tonga, voilà. Un Islander également, un voisin d'île des Samoans qui attaque Jimmy. Il relève sa capuche, parce que voilà, ces gens-là ont des capuches, et c'est Tama Tonga. Alors, qui c'est Tama Tonga ? Tama Tonga, c'est tout simplement le fils de Haku. Haku, qui était donc champion par équipe, hein, la WWE. Un grand copain aussi, hein, des Samoans. Tout simplement, une fois de plus, hein, famille par la génétique, mais famille par le sang. Tama Tonga, voilà un mec qui a fait toute sa carrière au Japon, multi-champion par équipe au Japon, donc ce qui veut dire qu'il y en a un là, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent encore arriver. Et donc l'attaque qui est le beatdown sur Jimmy Uso, Solo qui chope le téléphone de Paul Heyman qui allait faire un call Roman Reigns et qu'il l'écrase. Et donc Tama Tonga qui va prendre une chaise, qui place la chaise devant Jimmy et qui exécute Jimmy sous le regard effrayé de Paul Heyman, qui n'a d'autre choix que de lever son doigt avec Solo Sikoa et Tama Tonga. Un petit peu plus tard, on a une petite séquence backstage à l'infirmerie avec un Solo Sikoa, un Tama Tonga très menaçant envers Paul Heyman, qui n'a donc pas d'autre choix que de suivre ce Solo Sikoa qui semble donc assoiffé de pouvoir, tout simplement.
C'est pas trop, justement, comme tu dis, avec brio, ce qui nous a lâché la Solo Sikoa en toute fin dans les vestiaires, c'était en gros j'exécute les ordres, en fait.
J'exécute les ordres.
Voilà, donc est-ce que finalement Roman Reigns pilote en sous-main, et puis finalement Roman Reigns contourne son wise man et puis va directement dire à Solo qu'il faut faire. T'as raison qu'on s'y attendait pas, et c'était excellent, j'ai trouvé. Là, la Bloodline continue de faire de la très grande qualité. Mmh. La promo de Paul Heyman, qui était difficile, hein, le public était pas très concentré. Je pense que le public était comme nous au début, voulait pas trop voir la Bloodline sans Roman Reigns, voyait pas trop l'intérêt. au début, voilà, juste Solo et Jimmy. Bon, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Paul Heyman fait une bonne promo, effectivement. Il parle de Seth Rollins et du clin d'œil avec le Shield. Ce qu'il dit, enfin, tout est toujours très pertinent quand il dit voilà, il y a un an, Cody s'est fait détourner l'attention, c'était de sa faute. Et là, Roman, il s'est fait détourner l'attention, c'est sa faute, on assume. Mais derrière, voilà, on avait vu un peu avant, en fait, dans les vestiaires que la Bloodline râlait de voir le VIP room réservé maintenant à Cody Rhodes, et que la Bloodline avait plus sa belle salle avec ses canapés. Mmh. Et donc on nous avait dit, c'est les victoires et les défaites qui comptent ici. Donc Solo, pareil, ce qu'il exprime est assez logique. Voilà, il se tourne vers Jimmy, qui a perdu son match contre son frère, on l'a décrit. Alors est-ce que c'est lui le fautif de tout ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais... Bon, c'est un segment assez, c'est un segment classique dans le sens habituel et dans le sens légendaire de suite, ce qu'on a eu là, cette accolade, ce « tu es mon frère, vas-y, je t'aime », et après cette exécution. Moi, je connais pas du tout ce Tama Tonga, il a l'air physiquement assez costaud quand même, assez impressionnant, pas très 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 expressif, j'ai trouvé, mais bon, on va lui laisser encore un petit peu de temps pour se faire. Donc il y a une sorte de nouvelle Bloodline qui arrive, du vrai 109. C'est-à-dire que Roman Reigns, sans être là, continue d'être présent dans nos esprits. Est-ce que c'est sa volonté ou est-ce que c'est une rébellion? On ne sait pas encore. Est-ce que Jimmy, que va-t-il se passer pour Jimmy, même si le pauvre il a bien douillé et qu'on n'a peut-être pas trop de la peine pour lui parce qu'il a été un peu naze dans tout ça. Mais puis il y a un draft qui arrive. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer de revoir Jimmy et Jay ensemble, un Jimmy qui ferait acte de contrition, qui demanderait pardon à son frère, qui regagnerait le droit chemin et qui se dresserait là contre les petits jeunes aux dents longues. On peut imaginer plein de pistes, et ça a toujours été ça la Bloodline, et c'est dans ces moments-là que c'est le meilleur. Donc moi j'ai trouvé ça, là pour le coup, là c'était un vrai SmackDown du lendemain, où on part sur une nouvelle ère, avec des nouvelles stars, mais en gardant un historique riche, donc c'était brillant, je n'ai pas peur de le dire.
Brillant, tu l'as dit, c'est la formule Bloodline. Hein. Ça fait des années que ça dure. En fait, il suffit, on change un petit élément, on change un petit personnage, et puis on voit ce que ça fait. Voilà, on change un paramètre, et tout d'un coup, c'est reparti pour 3 ou 4 mois. C'est comme tu dis, c'est brillant, c'est tout simplement la recette des super séries qu'on suit, où le casting dure pendant 7 ans et il faut à chaque fois trouver des nouvelles histoires avec le même casting. Et c'est ça la Bloodline. Là on a eu effectivement un week-end avec un goût de défaite. Alors c'est vrai, tu l'as dit, c'est très important, Solo Sikoa est là pour exécuter des ordres. Voilà, c'est pas une prise d'initiative de la part de Solo Sikoa. Et Solo Sikoa, si vous vous souvenez bien, quand il est arrivé, il avait été envoyé par qui? Par les anciens. Hein, c'était les anciens qui avaient envoyé Solo Sikoa pour prêter main forte à Roman Reigns, pour être sûr que tout se passe bien à la Bloodline. Et on sait que Solo, Roman Reigns, il lui tient un petit peu tête. On a vu ce week-end, il était un petit peu fâché. Donc Solo, c'est aussi le représentant des anciens, qui restent quand même, qui ont quand même une place très importante dans la hiérarchie samoane. Ça peut être aussi tout à fait Roman Reigns qui envoyait des ordres en bypassant le Wise Man pour se débarrasser de Jimmy, qui, a perdu, hein, tu l'as dit, hein, samedi soir. Alors, toute la Bloodline a perdu au final, puisque Roman Reigns a perdu, mais on nous a expliqué pourquoi ils ont perdu Jimmy. Lui, par contre, c'était impardonnable, hein, cette défaite en 10 minutes face à Jay. Voilà, ce n'est qu'un pion. Jimmy n'a pas vraiment d'importance. Si on le remplace, on le remplace par une force brute, une force vive, Tama Tonga. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Et puis, il y a aussi le Rock, hein, évidemment. On peut parler du Rock, qui peut aussi tirer des ficelles, hein, pour foutre le bordel dans la Bloodline. Donc tu l'as dit, tout est possible et il n'y a aucune mauvaise réponse à tout ça. On sait d'ores et déjà que de toute façon, on va être tenu en haleine par encore cette histoire qui va réussir à vivre sans Roman Reigns, hein, visiblement pendant plusieurs semaines. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre, à voir avec ce Poleman qui n'a plus l'air d'être trop dans les confidences. On sait que... Il était voilà, porte-parole de Roman Reigns, mais il avait pas l'air d'avoir... Il a toujours un coup d'avance, mais là, celui-ci, il ne l'a pas vu venir. Donc, ouais, c'était carrément excellent, superbement exécuté. Ça nous a pris par surprise. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis comme toi, au début, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ils vont un peu nous baratiner, il va pas se passer grand-chose. Et puis finalement, paf, on repart sur autre chose encore, et ça va être... ça va être encore une fois de plus très intriguant et ça va nous donner envie de regarder le show bleu toutes les semaines, hein, une fois de plus. C'est ça la formule Bloodline, hein. C'est réussir à nous tenir chaque semaine devant notre écran. Eh bien, on arrive à la fin du show.
Bon,
Raphaël, je l'ai pris dans tous les sens, hein, ce show bleu. On l'a pris dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite. Nous étions le 12 avril à Détroit, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu viens nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Bah écoute, le top, je pense qu'on vient de le décrire assez en long et en large, hein, ce segment de la Bloodline, réussir voilà, dès le lendemain, on va dire que c'est le lendemain en termes d'épisodes de série, dès le lendemain du moment le plus révolutionnaire pour la Bloodline depuis 3 ans et demi, réussir à repartir derrière, chapeau, donc gros top pour tout ça, et l'exécution était parfaite, enfin Solo a été magnifique, c'était pas du tout un problème. Le flop, bon, on l'a bien décrit aussi, hein, ça va être pour Bayley, voilà. Et pour moi, c'était un meilleur SmackDown que ne l'a été Raw, donc je vais mettre un 3,75.
Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, plus concentré, malgré voilà, cette scène féminine là, qui était assez déshonorante, en particulier ce passage avec Bayley, mais voilà, on était quand même sur un excellent show bleu qui a joué les cartes qu'elle avait en main, donc c'est plutôt bien fichu. Est-ce que je l'ai trouvé mieux que le Monday Night Raw? Je ne sais pas, les deux étaient quand même très très bien. Mais ça, j'avoue être bien intrigué là par cette histoire de Bloodline. Là, ça, c'est la rivalité, enfin l'intrigue, voilà, l'intrigue majeure quoi. Presque la seule intrigue qu'il y a à la sortie de ce WrestleMania. Donc c'est de dire à quel point la Bloodline est tout simplement indiscutable. Hein, elle est nécessaire à WWE pour que ça avance. Et du coup, bah, je vais mettre un 3,5 également, comme le Monday Night Raw. Voilà, voilà, il y avait des avantages et des inconvénients aux deux. Mon défaut, enfin mon flop, eh ben, c'est Bayley. Et puis mon top, c'est cette séquence de la Bloodline. Voilà, comme toi, je partage totalement ton avis. Bien, eh ben, écoutez, catch-up, c'est terminé. Pour ce Raw et du SmackDown du lendemain, on va dire. Hein, voilà, c'est pour ça, avec Rafforce, il dit, tiens, on va faire tout ça d'une pierre deux coups. On va attendre que le SmackDown tombe pour parler des deux shows, pour voir un petit peu où la WWE allait nous envoyer pour les prochaines semaines. On a quelques indices, mais aussi pas mal de surprises encore à venir. Hein, on n'est qu'au début de cette nouvelle ère, comme l'a dit Triple H. Pour ne manquer aucune analyse, pour ne manquer aucun épisode, parce que c'est une nouvelle ère pour Catch Up, mais c'est une nouvelle saison, hein, qui démarre, la 9e, je crois, puisqu'on vient de faire 8 années, donc je crois que c'est la 9e année.
Puis ça va être une nouvelle saison de concours de pronos aussi, Backlash.
Ah oui, tu crois là? Et t'y crois?
Ah, j'y crois, je vais essayer. Mais, mais c'est sûr que c'est une road, ça va être des jours très particuliers pour nous tous, parce que là, comme on l'a eu l'an dernier pour Money in the Bank, on va avoir aussi cette curiosité de savoir ce qui va nous tomber dessus en live. Et c'est vrai que j'ai quand même cette petite méfiance. Ça va forcément être bien parce qu'on sera ensemble, parce qu'on sera en live, parce qu'on va avoir nos superstars préférés. Mais autant un show Money in the Bank est forcément, par définition, un show où il va se passer des choses, où il va y avoir des moments mémorables parce qu'il y a des mecs qui vont décrocher des mallettes. Autant là, j'espère qu'on va sortir un peu de... Tu vois, c'était Backlash à Porto Rico qui avait été vachement bien parce que le public était très chaud, mais qui avait été un petit peu house show amélioré avec pas grand changement. J'espère qu'ils nous ont réservé 2-3 surprises et qu'on va pas C'est ce que je décrivais, hein, juste avoir un Uso versus Priest avec peut-être voilà une intervention de la de Finn Balor pour aider son copain et puis un joli match Cody Rhodes et AJ Styles, Cody Rhodes qui va gagner clean, enfin voilà, on veut deux trois folies quand même. On a hâte.
Voilà. Vous sentez hein, la petite angoisse de votre affaire. On sait qu'on va pas avoir un show Triple A quoi, pas Triple H, mais donnez-nous quand même quelque chose de sympa. Donnez-nous quand même quelque chose de sympa, parce qu'après tout quand même, on a envie de nous aussi, on a envie de goûter. Voilà, c'est pas parce que c'est en France qu'il y a pas de raison. Donc rejoignez-nous hein, sur toutes les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, vous les connaissez, le Discord, le lien est dans la description. Une nouvelle heure pour les pronos, on en reparlera d'ici Backlash, mais ça arrivera très très vite, hein, parce que nous aussi, il faudra qu'on se prépare pour y aller hein, ce week-end, donc il va falloir qu'on s'organise, hein, parce que les jours qui précèdent, ça va être la folie rien que pour faire les valises. Ben, je te remercie Raphaël hein, d'avoir été présent dès le lendemain, hein, voilà, cette semaine complètement folle qui relance une nouvelle ère à la WWE.
Eh bien, ce fut un plaisir, pardon Irem.
T'allais partir sans dire au revoir ou quoi?
Ah non, j'étais en train de mettre mon manteau. Mais merci beaucoup Irem pour ta présentation et puis effectivement, nouveau cycle et nouvelles ambitions, mais Catch Up sera toujours là.
On sera toujours là, évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous d'ici là une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut!
Ciao à tous!
Mesdames et messieurs, mon nom est Paul Eman.